Rencontre avec Loïc Barrière sur Radio Orient.
L'invité de rencontre est maître Chemseddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris. Vous publiez un nouvel ouvrage, N'en déplaise à certains, nous sommes les enfants de la République, aux éditions Kéro. Bonjour.
Bonjour.
Alors, monsieur le recteur, c'est un ouvrage dense, riche, dans lequel vous revenez sur votre action depuis que vous êtes recteur de la Grande Mosquée de Paris, un mandat que vous avez exercé en pleine crise sanitaire. C'est à la fois un premier bilan, mais le livre regarde aussi vers l'avenir, en s'intéressant à de nombreuses questions liées à l'islam. Vous y évoquez aussi pour la première fois les coulisses de votre élection à ce poste. Vous parlez un peu de vous en fendant l'armure. Né algérien de confession musulmane et citoyen français, mon identité est républicaine. Vous ajoutez « ma foi islamique et ma culture algérienne » m'ont inculqué la bienveillance, la loyauté et le refus de l'hypocrisie. C'est un livre dans lequel vous vous présentez aux Français, vous expliquez qui vous êtes avant d'évoquer les grands sujets liés à l'islam.
Oui, je crois que c'est important pour moi et notamment pour le public de mieux me connaître, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, j'arrive en janvier 2020 à un moment où on est en train de commencer à vivre la pandémie. J'ai été, en tant que recteur, face à ma conscience lorsqu'il a fallu décider de fermer la mosquée, les portes de la mosquée, alors qu'en principe, une mosquée reste ouverte constamment. Elle est là, je dirais, en forme de refuge, au-delà d'être une salle d'adoration pour les musulmans. Et donc, après cette grosse crise avec un confinement, avec un certain nombre de situations où on constate que l'islam, les musulmans sont toujours quelque part mis au banc des accusés. Et j'ai voulu, à travers ce livre, montrer d'abord aux non-musulmans ce qu'est une mosquée, ce qu'est un recteur, ce qu'est l'islam et les musulmans. Et je crois qu'il faut arrêter de leur faire des procès d'intention à ces musulmans, mais montrer tout simplement qu'il s'agit de citoyens, et le titre est évocateur. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit, nous sommes les fils de la République, nous musulmans de France.
Maître Chemseddine Hafiz, cela fait 2 ans que vous êtes recteur de la Grande Mosquée de Paris. Dans ce livre, vous rendez hommage à votre prédécesseur, Dalil Boubaker. Je rappelle que vous êtes avocat et que vous avez été notamment l'avocat de la Grande Mosquée de Paris dans plusieurs affaires. Vous écrivez dans ce livre que la Grande Mosquée est un relais de fraternité. Vous dites aussi que votre projet repose sur un triptyque, action, clarté et rassemblement. Quelle mission vous êtes-vous assigné en arrivant à ce poste extrêmement sensible en janvier 2020?
D'abord, m'attaquer à quelque chose qui est fondamental pour nous les musulmans, c'est la prévention de la radicalisation. Aujourd'hui, nous constatons que notamment nos jeunes sont, je dirais, attirés pour des raisons souvent que je peux comprendre, cette forme de stigmatisation. Ils sont en quête d'identité lorsqu'on entend par-ci, par-là, ces critiques extrêmement fortes et jamais justifiées sur l'islam et les musulmans. Je comprends ces jeunes. Et donc, moi, je souhaite que la Grande Mosquée de Paris soit vraiment un barrage. Un barrage, je dirais, sans concession, entre ces jeunes musulmans et entre cette hydre islamiste, ce discours politique qui vient abîmer cette très belle religion. Et c'est pour cela que ça, c'est ma mission fondamentale. La deuxième mission, et c'est pour cela certains de mes détracteurs considèrent que je communique beaucoup, mais j'ai envie de montrer aux non-musulmans la réalité de ce qu'est l'islam. L'islam est une religion comme les autres religions monothéistes. Elle peut être considérée comme violente, et moi je veux démontrer qu'elle n'est pas violente. Je veux montrer que c'est une religion de fraternité et de bienveillance. Et donc pour cela, il faut faire l'effort d'aller vers les non-musulmans, de leur expliquer. Et ma mission essentielle à travers ces deux, je dirais, objectifs, c'est que mes imams, les imams de la Grande Mosquée de Paris, soient au rendez-vous. Parce que c'est eux les sachants, c'est eux qui maîtrisent parfaitement, je dirais, à la fois le message coranique, à la fois la tradition, la jurisprudence musulmane, et montrer que l'islam est totalement compatible avec les règles de la République, et seuls les imams sont en mesure de faire ce travail. C'est pour ça que j'ai consacré un chapitre aux imams en les qualifiant d'une élite méconnue, et je voudrais que les Français, qui ne connaissent pas bien l'islam, eh bien, comprennent que c'est à travers des contacts, des relations avec les imams, qu'ils pourront mieux cerner ce qu'est notre religion.
On va parler des imams dans un instant. À propos de la grande mosquée de Paris, vous écrivez « Ce lieu élégant inspire la quiétude, il apaise, il m'apaise. Que dire du jardin, une belle Andalousie en plein cœur de Paris, une vision du paradis, une projection du sublime ?» Monsieur le recteur, on ne peut que souscrire à cette belle description, que l'on soit croyant ou pas. Cette mosquée, c'est un haut lieu de spiritualité ouvert à tous au cœur de Paris. J'imagine que vous devez mesurer chaque jour la chance de pouvoir animer un tel lieu.
Absolument, c'est une chance inouïe pour moi, qui ai travaillé aux côtés de Dalil Boubaker pendant plus de 20 ans, et d'être aujourd'hui recteur de la Grande Mosquée de Paris est à la fois un grand honneur, mais en même temps une très grande responsabilité, parce qu'effectivement, je ne dois pas aujourd'hui faillir à ma mission. Je suis le 7e recteur, et chaque recteur, comme je le dis, a joué un rôle important, a joué un rôle de premier plan souvent, dans des moments extrêmement difficiles, que ce soit la Deuxième Guerre mondiale pour Abdul Ben Rabrit, que ce soit pour Hamza Boubaker pendant la guerre des six jours en 67, pendant, je dirais, les différentes missions qui ont été donné à ses recteurs, il y a eu une constante. C'est l'islam du juste milieu, l'islam de la fraternité. Cet islam que aujourd'hui nous avons tous dans notre cœur, et c'est pour cela que je considère que cette mosquée, comme je le dis, à travers son esthétique, mais à travers également sa position, elle est en plein quartier latin, elle est juste à côté du Jardin des Plantes. Vous imaginez cette position géographique qui est incroyable. Et donc pour cela, il faut qu'on soit à la hauteur de ces engagements. Mais en même temps, au-delà de ce lieu de spiritualité, c'est un lieu de visite tout simplement. Et moi, je suis extrêmement ému lorsque je vois des non-musulmans passer la porte de la Grande Mosquée de Paris pour venir se promener dans les jardins. Vous savez, j'ai une image que je me permettrai de partager avec vos auditeurs. C'est, on est en plein confinement. Et donc, je vois de temps en temps des personnes qui viennent, non musulmanes, et qui sont là en train de se promener dans le jardin. Donc très discrètement, j'ai mis quelques chaises par-ci, par-là, pour permettre à des personnes plus âgées de pouvoir s'asseoir et de profiter, je dirais, de ce beau jardin. Et un jour, je vois une dame d'un certain âge entrer avec sous le bras le quotidien Le Monde, et elle s'installe et elle va se mettre à lire Le Monde dans le jardin. Et je demande au gardien de m'avertir au moment de sa sortie. Et puis une heure et quart après, il vient m'appeler en me disant « Tiens, la dame s'en va ». Et je suis sorti, j'ai vu dans le visage de cette femme, cette sérénité, qui à travers la lecture du Monde, mais en même temps par rapport à toute cette ambiance, avec des arbres, des fleurs, des oiseaux, qui donnent cette ambiance. Et j'étais rasséneré en me disant cette mosquée, en fait, elle permet à des non-musulmans de venir chercher la quiétude, et c'est ça qui est un message pour moi exceptionnel.
Alors, vous l'avez dit, tous les recteurs de la Grande Mosquée de Paris ont vécu des époques extrêmement difficiles, et dans ce livre, vous écrivez que les organisations qui représentent l'islam de France doivent agir, car la situation est grave. Pour vous, c'est votre mission actuelle. L'évolution de l'islam politique en France, dites-vous, rappelle ce qui s'est passé en Algérie avant la décennie noire.
Oui, vous avez tout à l'heure fait état de mon attache à l'Algérie. Je suis né dans ce pays, j'ai aimé, j'aime toujours beaucoup ce pays. Aujourd'hui, je suis français, je suis recteur de la Grande Mosquée de Paris. Et je crois, et je tiens à le dire, il n'y a aucune incompatibilité entre les deux. On peut être à la fois français, on peut être algérien, amoureux des deux pays. Et en espérant que nous puissions les rapprocher l'un de l'autre, parce qu'il y a tellement de choses à faire entre les deux pays. Et Bien évidemment que début des années 90, l'Algérie a été le premier pays à être touché de plein fouet par cet islamisme terrible. Il y a eu des attentats, il y a eu des actes criminels qui ont été commis. Et ce pays a été seul.
Et je n'ai pas d'image en France.
Il n'y avait aucune image. Au contraire, il y avait des images extrêmement subjectives. Je me rappelle des slogans qui tuent qui. Je rappelle d'un certain nombre d'écrits à l'époque par des périodiques français qui mettaient en doute ce qui se passait réellement en Algérie. Et moi, je voudrais, à travers cet exemple, expliquer qu'on ne peut pas appréhender l'islam sous un prisme quelconque. On n'aime pas l'Algérie, donc on va imaginer un certain nombre de choses sur l'islam. On n'aime pas les musulmans, on va regarder l'islam à travers le prisme de l'immigration. Il faut regarder l'islam droit dans les yeux. Il faut regarder cette religion comme elle est, non pas à travers le vécu d'une personne, d'une organisation ou d'un pays. Et je crois que c'est ça l'erreur fondamentale. Et l'Algérie était très isolée, et on a vu l'expérience, on a vu comment l'Algérie a réussi à se réorganiser, les pouvoirs politiques de l'époque, comment ils se sont réorganisés, notamment avec les imams, avec l'organisation des mosquées. Donc, il y a eu des mesures qui ont été prises et effectivement, je considère, et j'en ai parlé même au président Macron, qu'il fallait tenir compte de l'expérience algérienne pour pouvoir aujourd'hui combattre le séparatisme islamiste.
Maître Chemseddine Hafiz, vous l'avez dit tout à l'heure, depuis le début de votre mandat, vous mettez en avant le rôle très important des imams, qui appartiennent selon vous à une élite méconnue, les imams de la Grande Mosquée de Paris, mais aussi tous les imams de France. La difficulté de l'islam de France, c'est que ces imams doivent être payés et les musulmans manquent de ressources financières. Finalement, sans l'Algérie, le Maroc ou la Turquie, de nombreux imams ne pourraient pas être payés. Alors, quand l'État français veut en finir avec les imams étrangers, on se demande si les mosquées ne vont pas manquer d'imams et peut-être les remplacer par des imams autoproclamés.
Vous avez, dans votre question, répondu à cette question importante hein, pour moi. Parce qu'effectivement, est-ce qu'on est conscient que le départ des imams détachés, turcs, marocains et algériens, va poser une vraie problématique. Vous savez, quand vous dites que les mosquées vont être démunies, c'est comme un avion sans pilote. L'avion reste à terre. Il ne peut pas voler. C'est la même chose pour une mosquée. Une mosquée ne peut avoir son rayonnement, ne peut recevoir des fidèles que lorsqu'elle a un imam. Et vous savez, la réputation d'une mosquée passe également par la réputation de l'imam. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le problème qui est posé des imams, de la formation des imams est capitale pour notre pays. Mais en même temps, c'est un dur et long labeur pour mettre en place cet islam de France, que j'appelle de mes voeux. Mais on ne peut pas comme ça, d'un clin de doigts, considérer qu'il n'y a plus d'imams étrangers en France. Il faut aujourd'hui prendre le temps d'y réfléchir, de former des imams. J'ai un institut de formation. La Grande Mosquée de Paris s'est dotée en 1993 d'un institut qui s'appelle l'Institut Razali, qui est chargé de former des imams. Moi, j'ai créé une école nationale qui s'appelle l'École nationale Ibn Badis, qui a pour charge l'enseignement de l'arabe, l'enseignement de la calligraphie, l'enseignement de toutes sortes, je dirais, d'études sur les matériaux, le zellige, etc. Mais en même temps, il y a l'Institut Razali. Et pour cela, j'ai fait des efforts considérables pendant 2 ans pour qu'il y ait à la fois un programme pour les imams, mais qu'il y ait des possibilités. J'ai ouvert 4 annexes sur tout le territoire national. Aujourd'hui, nous avons 167 étudiants. Donc j'espère que l'année prochaine, en juin 2023, j'aurai 167 diplômés. Mais la question qui se pose, qui va les rémunérer par la suite? Qui va les embaucher? Parce que nous savons pertinemment qu'une mosquée aujourd'hui, même la Grande Mosquée de Paris, ne peut pas recruter avec un CDI un imam qui, on va lui donner le minimum, c'est-à-dire le SMIC, ça va faire facilement 16 000, 30 000 euros par an. Qui peut aujourd'hui, comme lieu de culte en France, peut prendre en charge une telle dépense? Et donc il faut à la fois créer un vrai statut, c'est à travers le Conseil national des imams que je pense que nous pourrions régler ce problème.
Le président Macron est conscient de cette difficulté, vous en avez parlé avec lui?
Oui, bien évidemment, il est très bien informé. Et c'est pour cela qu'à l'époque, il avait lui aussi appelé de ses voeux à la création du Conseil national des imams, et il avait posé une exception que je trouvais tout à fait naturelle et normale, c'était de signer une charte des valeurs pour un islam de France. Et nous savons la suite, la charte a eu des difficultés, elle ne s'appelle plus la charte des valeurs, mais des principes pour un islam de France. Sur 8 fédérations composant le CFCM, il y en a 5 qui ont signé cette charte, qui posait de vraies, je dirais, solutions, parce que c'est la première fois que des musulmans se mettaient autour d'une table pour essayer de dégager des principes fondamentaux, à la fois pour montrer que les musulmans et l'islam sont tout à fait compatibles avec les principes de la République française et qu'il n'y avait aucune difficulté ou incompatibilité entre eux.
Depuis, ces autres fédérations ont fini par signer la charte ?
Il y a donc des 3 fédérations qui n'avaient pas signé la charte le 18 janvier 2021, ont manifesté donc leur intention de signer cette charte. Je les ai rencontrés, moi, 3 présidents de ces fédérations. Nous avons beaucoup échangé. Nous avons essayé, grâce à cette fraternité qui nous unit, d'essayer d'aller de l'avant, notamment, surtout, moi, mon enjeu, c'est le Conseil national des imams. Il faut absolument que le Conseil national des imams, qui a été mis en place en novembre 2021, novembre dernier, puisse devenir opérationnel. Et en même temps, on ne peut pas laisser aujourd'hui des imams, des étudiants, je dirais, faisant partie de la mouvance, entre guillemets, turque, qu'on puisse comme ça les laisser de côté.
Il faut souligner que signer cette charte, c'est quand même une vraie révolution pour les fédérations musulmanes. Ça n'allait pas de soi.
Non, ça n'allait pas de soi, mais en même temps, parce que de toutes les manières, nous sommes précurseurs, nous sommes dans une situation où nous sommes en avant, et donc on doit essayer de comprendre comment notre société va réagir. Et je trouve que cette charte, même si elle a été beaucoup critiquée, d'abord, je rappelle que dans cette charte, nous affirmons que le fait de vivre en France, quel que soit notre statut, français, titulaire d'un titre de séjour, même sans papier, doit, en tant que musulman, respecter le pays dans lequel il est. C'est l'ahd, c'est cet accord qui est fondamental entre le musulman et le pays qui l'abrite, pour montrer que les musulmans ne doivent pas être hostiles au pays dans lequel ils vivent. Deuxièmement, nous rappelons que les valeurs de la République, les règles de la République sont au-dessus de toute autre considération, même religieuse. Mais en même temps, moi j'explique qu'il n'y a pas d'opposition entre la règle musulmane et la règle de la République. Moi, lorsque je prie, lorsque je jeûne, lorsque je fais de la zakat, lorsque je vais en pèlerinage, c'est-à-dire que lorsque j'exerce les 5 piliers de l'islam, je n'ai qu'un Dieu et je ne crois qu'en lui. Et c'est la loi supérieure à ce moment-là pour moi, parce que je suis dans mon adoration, je suis dans ma pratique culturelle et religieuse. Mais à partir du moment où je suis en dehors de cette relation, je dirais verticale et transcendantale, je suis dans une relation avec le reste de la société française et je dois absolument, à ce moment-là, vivre avec les lois de la République qui sont au-dessus de toutes les lois possibles et imaginables.
L'invité de rencontre est Chems Eddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris. Je rappelle le titre de votre livre, « N'en déplaise à certains, nous sommes les enfants de la République » aux éditions Kero. On se retrouve dans quelques instants. Retour sur le plateau de rencontre. Nous sommes toujours en compagnie de Chems Eddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris. Je rappelle le titre de votre livre, « N'en déplaise à certains, nous sommes les enfants de la République ». Alors, on a parlé de la Grande Mosquée de Paris au lieu de spiritualité. On a parlé tout à l'heure aussi de la question des imams. Vous l'avez souvent dit et vous l'écrivez à nouveau dans ce livre, dans le chapitre intitulé « La religion du rassemblement, la France est une chance pour l'islam ». Sur certains sujets, vous évoquez la nécessaire relecture de certains versets coraniques. Vous considérez que sur certains points, une réinterprétation est nécessaire. C'est un travail que mènent actuellement les théologiens de la Grande Mosquée de Paris ?
Oui, absolument. Alors, ils ne font pas de la réinterprétation, ils font tout simplement de l'interprétation, dans la mesure où le message coranique a été dévoyé. Le message coranique a été transformé. C'est un véritable, je dirais, amalgame de tout ce qui est véritablement déclaré dans les versets coraniques. Donc on veut faire un travail, et les imams se sont aujourd'hui, depuis 2 ans, penchés sur ces questions pour expliquer de nouveau ce qu'est véritablement le message coranique, à la fois sur le plan spirituel, rituel, sur le plan historique, sur les plans des hadiths, et revenir véritablement à cette contextualisation que nous cherchons à tout prix. J'ai demandé également à ce qu'on adapte le discours religieux par rapport à la société française dans laquelle nous sommes, et j'ai demandé à mes imams, lorsqu'ils font la préparation de leur sermon du vendredi, qu'ils tiennent compte à la fois des éléments de l'histoire de France et de la culture de France. Et donc, toutes ces questions montrent qu'il y a véritablement une osmose entre ce qui se passe dans la société occidentale et dans la société française, lorsque on appréhende le message coranique d'origine. Parce que je pense que pendant des siècles, l'islam a été lourdement abîmé par ses détracteurs, par ses ennemis, par, je dirais, une lecture tronquée de l'islam. Lorsqu'on voit le sort de la femme aujourd'hui dans la religion musulmane, alors que lorsqu'on revient aux fondamentaux, on voit la différence flagrante entre à la fois l'origine du statut de la femme et aujourd'hui comment elle est considérée dans notre milieu, dans notre communauté, et surtout également vue par nos détracteurs.
Et tous les musulmans n'admettent pas ce que vous dites. La difficulté, ça va être de les convaincre, vous qui êtes avocat.
Oui, je pense pouvoir les convaincre assez facilement quand on a l'intention d'écouter. Et je pense qu'aujourd'hui, vous savez, on parle beaucoup de l'islamisme, on parle beaucoup, je dirais, des trains qui arrivent en retard. Mais regardez l'écrasante majorité des musulmans. Aujourd'hui en France, ils sont citoyens, ils travaillent souvent dans des conditions pénibles. Ils occupent très souvent des petites fonctions, des petits postes. Mais malgré cela, malgré les difficultés qui concernent l'ensemble du monde du travail en France, ben, ces gens-là sont heureux d'être français. Et quand ils apportent leur petite pierre, je dirais, à la nation française, ils sont très satisfaits. Moi, je vois autour de moi des magistrats, des policiers, des militaires. Vous savez, je le dis ici, même ça, dans la 4e de couverture, lorsque vous écoutez les aumôniers réciter à tue-tête la Marseillaise, vous dites aux candidats, notamment, qui aujourd'hui prêchent pour considérer l'islam comme n'étant pas compatible avec les valeurs de la République, vous pouvez les questionner, leur dire, est-ce que vraiment ils aiment la France? Moi, je les ai vus et je considérais, en les voyant chanter la Marseillaise, que c'était véritablement un message qui venait du cœur. C'est ça le plus important. Après, il y a effectivement quelques groupuscules qu'il faut quand même, et je le dis dans mon livre également, qu'il faut qu'ils reviennent. Parce qu'il y en a qui ont été induits.
Et vous dites, revenez.
Oui. Revenez parce que je considère que effectivement, il y a des personnes qui ont envie de vivre, je dirais, vraiment leur religion. Et moi, je suis là, en tant que recteur de la Grande Mosquée de Paris, pour veiller à ce que ces personnes qui ont une pratique peut-être un peu plus intense que d'autres, moi, je souhaite que ces hommes et ces femmes qui pratiquent de manière intense leur religion musulmane, moi, je les défendrai. À partir du moment où ils sont dans cette relation, parce qu'ils considèrent qu'en émettant, en effectuant des actes d'adoration, le plus souvent dans la journée ou dans la semaine ou dans le mois, ceux-là considèrent qu'ils se rapprochent de cette manière de leur Créateur. Moi, je veux aujourd'hui leur dire, vous pouvez pratiquer de manière intense votre religion. Nous sommes dans un état de droit et nous pouvons le faire sans aucun problème. Par contre, cette personne qui va sortir de cette relation avec son Créateur et qui va commencer à faire de la politique en refusant de serrer la main à une femme, en refusant d'être en train de parler avec une femme, ceux-là, ils sont passés de la pratique de l'islam à une idéologie politique. Et là, je dirais non, ça ne peut pas se passer comme ça en France.
Maître Shamseddine Hafiz, sur les plateaux de télévision, on assiste depuis quelques années à un discours qui met en cause la loyauté des Français de confession musulmane au nom de la lutte contre l'islamisme et contre le communautarisme. On entend parfois des propos qui confinent à l'amalgame et à la stigmatisation des musulmans et pas des islamistes. Vous avez une formule pour ça, la politique nuit gravement à l'islam. Est-ce que vous considérez que ces chroniqueurs, ces hommes politiques, ne rendent pas service en fait à la laïcité qu'ils croient défendre? Vous dites que la laïcité est la plus belle des inventions françaises.
Absolument, et je pense que ces chroniqueurs, moi j'essaie de leur accorder le bénéfice de la bonne foi. Est-ce qu'ils savent? Et je fais un appel solennel à travers votre média. Est-ce qu'ils savent vraiment qu'ils sont en train de nourrir les plus extrémistes? Est-ce que le fait de dire ce qu'ils sont en train de déclarer, il y a des gens intelligents, il y a des gens très cultivés qui ont une approche extrêmement négative de l'islam et des musulmans. Moi, je leur dis, attention, raison gardée, ne faites pas d'amalgame parce que ce que vous dites est totalement erroné et faux concernant la religion musulmane. Ce n'est pas ce que vous voulez présenter de cette religion. Et les hommes et les femmes qui pratiquent cette religion sont des adorateurs d'Allah et qu'ils sont des personnes paisibles parce que l'islam, contrairement là également à ce qu'on veut faire croire, l'islam est une religion de tolérance, de fraternité ou la liberté de conscience. Et je tiens à le dire, la liberté de conscience, elle est totale. Il n'y a aucune contrainte en religion. Ce sont des éléments qu'on rappelle en permanence. Lorsque il y a un verset coranique qui dit qu'avant même d'avoir révélé à votre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'ai révélé des messages à plus de 27 envoyés. Donc vous imaginez qu'il n'y a pas que l'islam, il n'y a pas que les musulmans qui ont eu la grande chance d'avoir cette relation avec leur créateur. Il y a d'autres religions. Il y a des gens qui ne croient pas. Et c'est Dieu lui-même qui le déclare. C'est moi qui ai décidé qui me croire et qui ne me croira pas. Et donc, c'est quand même des leçons de vie, ces versets coraniques, qu'il faut mettre en œuvre à chaque fois. Et je considère que la fraternité humaine, telle qu'elle est aujourd'hui, rappelée par le Saint-Père, donc
que vous avez rencontré,
que j'ai rencontré récemment, et le Saint-Père, lorsqu'il m'a rencontré, n'a parlé de fraternité humaine.
Vous parlez de fraternité, justement, Maître Shamseddine Hafiz. Dans un passage qui concerne le voile intégral, vous dites ceci, qui me paraît très fort. « Je m'emporterais peut-être moins contre une telle loi si l'on mettait autant d'énergie à aider la communauté immigrée qu'elle a blâmée. » Dans la devise « Liberté, égalité, fraternité », il faudrait qu'il y ait un peu plus de fraternité dans le discours quand on parle des musulmans.
Oui, absolument, ce triptyque, il est fondamental. Et aujourd'hui, je crois que beaucoup de gens l'ont oublié. Et les candidats à la magistrature suprême n'ont pas le droit d'oublier ce triptyque. N'ont pas le droit d'oublier que la France est un pays de fraternité avant toute chose. Aujourd'hui, stigmatiser de la sorte les musulmans, c'est comme cela a été fait au début du XXe siècle pour une autre communauté qui est la communauté juive. Et il faut aujourd'hui prendre compte du risque de cette situation qui peut à un moment ou à un autre déraper. Nous voyons comment on aurait pu imaginer au XXIe siècle qu'il y ait une guerre en pleine Europe. Ben, nous la vivons aujourd'hui. Est-ce qu'on aurait imaginé, est-ce que nos fameux chroniqueurs dont vous parlez, est-ce qu'ils prévoyaient qu'il y ait aujourd'hui une guerre en Ukraine?
C'est ce que Emmanuel Macron a rappelé, c'est le retour du tragique dans l'histoire.
Le retour du tragique, j'ai l'impression que l'homme cherche toujours à rattraper une histoire tragique. Et c'est ça qui est terrible. Et c'est pour cela que je fais appel aux hommes politiques qui aujourd'hui sont candidats à la présidence de la République de faire attention aux propos qu'ils tiennent parce que ça a des conséquences terribles.
Dans votre livre, plusieurs pages sont consacrées à la question des femmes. En paraphrasant Louis Aragon, vous écrivez même que la femme est l'avenir de l'islam. Et dans ce livre, vous évoquez quelque chose de personnel, le combat des femmes algériennes pendant la guerre d'indépendance. Et surtout, vous parlez avec pudeur et tendresse de votre mère. Quel geste fort a-t-elle accompli le 5 juillet 1962 ?
Elle a retiré son voile. Vous savez, les femmes en Algérie sont des exemples de courage. sont des exemples d'abnégation. Et je crois que dans une société, quelle qu'elle soit, la femme est le curseur. Lorsqu'on voit une femme qui vit en harmonie, une femme apaisée, une femme qui joue véritablement son rôle dans une société, nous savons que la société en question n'a aucun problème, elle avance au bon pas. Et nous voyons aujourd'hui que malheureusement dans notre communauté musulmane, la femme est discréditée. La femme, on essaye encore d'étouffer son existence. Et moi je dis, c'est pour ça que j'ai consacré 2 chapitres à la femme, j'ai effectivement pris une expression de Louis Aragon, parce que pour moi la femme est capitale. Et autour de moi je vois, lorsque vous travaillez avec une femme, la femme, elle est opiniâtre, la femme, elle est sincère, la femme, elle va jusqu'au bout de ses convictions. Elle ne vous trahira jamais. Et c'est ça qui est important. Et les femmes algériennes ont donné l'exemple. Quand je cite Djamila Boupacha, qui a été quand même dessinée par l'un des plus grands artistes au monde, Picasso. Quand Djamila Bouhered a été condamnée à mort aujourd'hui, elle est l'égérie de tout un peuple. Toutes ces femmes. Et avant, il y a eu des combattantes. Pourtant, c'était une situation extrêmement difficile. Je rappelle, moi, que simplement, ma mère était, comme toutes les mères de l'époque, sans instruction et sans avoir été à l'école. Et pourtant, elle avait, je dirais, cette hargne à la fois pour l'indépendance de l'Algérie et pour éduquer un tant soit peu ses enfants.
Alors, vous l'avez rappelé tout à l'heure, on peut être 100% français et 100% algérien dans son cœur. Nous sommes à quelques jours du 60e anniversaire des accords d'Évian. Ces derniers jours, les chaînes de télévision comme France 2 ou Arte ont diffusé des documentaires remarquables sur la guerre d'Algérie. J'ai en mémoire notamment les paroles de solidarité de Ferhat Abbas avec les Juifs d'Algérie qui avaient perdu leur nationalité française sous le régime de Vichy. Et dans votre livre, vous revenez sur la question coloniale. Et pour vous, il y a un lien entre les crispations de la société française vis-à-vis des descendants d'immigrés à travers la question de l'islam et cette guerre d'Algérie qui a fracturé la France?
Écoutez, je prends un exemple qui est vraiment symptomatique, c'est la stèle de l'émir Abdelkader. À Amboise, juste à la veille de son inauguration, on va casser on casse le symbole. Mais qu'est-ce qu'on dit? L'émir Abdelkader, l'ennemi de la France. Oui, l'émir Abdelkader a tenté de combattre la colonisation. Mais en même temps, au moment où il a rendu les armes, ça a été montré à chaque fois qu'il était un musulman, un homme pieux. Et lorsqu'il va en 1860 en Syrie pour défendre les chrétiens, vous imaginez, lorsqu'on lui pose la question « Mais pourquoi faites-vous cela ?» Il dit « Ce sont mes prescriptions coraniques, c'est mon islam qui me demande d'aller sauver des chrétiens. » Et donc, toute cette histoire montre combien aujourd'hui, oui, la société française est fracturée. Moi, je me rappelle à l'époque, lorsque Lakhdar Amina a eu la palme d'or à Cannes, ça n'a jamais posé de problème. Alors qu'aujourd'hui, tout ce qui concerne, et là, nous avons un candidat qui passe son temps à cracher sur l'histoire de l'Algérie, sur son propre, je dirais, sa propre terre, ou la terre de ses ancêtres. Je trouve ça quand même assez dégueulasse de parler de cette manière de l'Algérie. Alors que, je peux le dire, entre l'Algérie et la France, c'est une histoire qui doit absolument montrer qu'il y a une fraternité humaine, il y a une histoire commune. Nous vivons aujourd'hui le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Je crois que c'est le moment de parler avec apaisement de cette histoire, parce que nous devons nous regarder en face, nous devons construire un avenir commun. Je vois que l'Allemagne et la France ont mis du temps pour, je dirais, apaiser leurs relations. Mais aujourd'hui, vous imaginez, lorsque la France et l'Allemagne trouvent toujours des points d'accord, sont les moteurs de l'Europe. Je souhaiterais qu'entre l'Algérie et la France, ça soit ce rôle pour permettre à ce que l'Afrique devienne véritablement, je dirais, le moteur à travers l'Algérie et la France, une relation apaisée entre l'Europe et l'Afrique.
On se rappelle de la main de François Mitterrand et du chancelier allemand. On peut imaginer le président Macron et le président Tebboune se donnant la main.
Oui, et je crois que beaucoup de franco-algériens, j'ai reçu des franco-algériens à la mosquée qui sont venus. Alors là aussi, on dit que le recteur de la Grande Mosquée de Paris fait de la politique. Pas du tout. Moi, j'essaye aujourd'hui d'apaiser les tensions. Parce que j'ai besoin que lorsque le fidèle vient dans la salle de prière, il ne doit pas être en train de se poser une question sur son identité. Est-ce qu'il est français, algérien, musulman, non musulman? Je veux qu'il soit véritablement en harmonie avec soi-même. Et pour cela, j'ai besoin d'aborder ce genre de questions. Et les franco-algériens qui sont venus, tous espèrent que le président Tebboune viendra un jour en France, parce qu'ils ont envie que, là également, les relations entre les deux présidents se fassent avec amitié. Et je crois que ces deux hommes sont faits pour s'entendre. Et le président Tebboune, s'il vient en France, à la rencontre à la fois de sa communauté, mais en même temps de ce pays, qu'il ne connaît pas très bien, mais ça serait un signe très fort pour l'apaisement des rapports entre les deux pays.
Dernière question, très rapidement, Cheikh Mohsedine Hafiz. J'aimerais qu'on parle du titre de votre livre, « N'en déplaise à certains, nous sommes les enfants de la République ». Ça fait écho à ce qu'avait dit Jacques Chirac après les émeutes de 2005. Il avait dit « Les enfants des banlieues sont les fils et les filles de la République ». C'est un message qui reste d'actualité à un mois du premier tour de l'élection présidentielle.
Vous imaginez Jacques Chirac qui disait cela, ça remonte à presque 20 ans. Et malheureusement, aujourd'hui encore, il y a des candidats, il y a des hommes politiques, des chroniqueurs qui contestent aux musulmans d'être français. C'est pour cela que j'ai choisi ce titre.
Merci Cheikh Mohsedine Hafiz. Je rappelle que vous êtes recteur de la Grande Mosquée de Paris et je recommande vivement la lecture de ce livre, N'en déplaise à certains, nous sommes les enfants de la République, aux éditions Kairos. C'est à la fois un livre en prise avec l'actualité, à un mois de l'élection présidentielle, mais c'est surtout un ouvrage qui aborde des questions de fond. Merci.
Merci beaucoup.